Bon bah, c'est quoi maintenant? Djiboutique, rediffusion? Djiboutique, rediffusion.
Aïe, 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 yambao. Aïe, aïe, yambao. Aïe, aïe, yambao. Aïe, 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 yambao. Vamos a la escuela, niña. Vamos a la escuela, rosa. Aïe.
Alors, en guise d'introduction, on aimerait bien que chacun se présente un petit peu son parcours, de manière succincte, son arrivée à la rumba et inversement. Et donc, on va peut-être faire un petit tour de table dans le sens des aiguilles d'une montre, peut-être. On va commencer par toi, Johanna.
T'es pourvu. Donc, c'est une émission sur la rumba. Pour moi, la rumba, c'est avant tout quelque chose qui m'a pris un beau jour et qui ne m'a plus quitté et qui ne me quittera plus jamais. Et voilà, c'est une maladie contagieuse, bienfaisante à la fois. Et bien, j'ai dû faire avec ça. Mais à l'époque de ma jeunesse, c'était 68. Donc, les artistes, ils faisaient péter tous les codes et malheureusement, les codes de la danse aussi. Donc j'ai été très en manque, j'ai fait du ballet et dans le ballet je trouve qu'il manquait le rythme, il manquait le social, il manquait tout ce que j'aimais bien. Donc je suis partie avec un étudiant en anthropologie en Afrique occidentale, mais toujours avec ce rêve de retrouver un jour la rumba, d'aller à Cuba un jour. Et quand je suis venue dans les villes africaines, parce que je vivais beaucoup en pays Dogon, en pays Mayen, chez les paysans, mais quand je revenais j'entendais des airs cubains. Et ça, c'était mon grand bonheur. Et donc, j'ai eu, à ce moment-là, personne n'allait à Cuba. C'était impossible d'y aller. C'était très difficile. Mais moi, ça existait puisque je donnais déjà des cours de son cubain dans mes cours de danse africaine aussi. Et alors, j'ai été chercher les traces africaines que j'avais découvertes en Afrique occidentale à Cuba. Donc, je suis arrivée à Cuba en 89. Et bien sûr, j'ai trouvé la rumba et je me suis rendu compte que la rumba, c'était pas la rumba. Enfin, la rumba telle que nous, on la connaît, c'est pas la vraie rumba. C'était du son qui avait été plus ou moins édulcoré ou transformé. C'était formidable aussi, mais la véritable rumba, là, j'ai eu la grande chance de pouvoir la rencontrer vraiment à Cuba à partir de l'esclavage, donc à partir de toute l'histoire de l'esclavage. Voilà. Et en principe, je suis professeure de danse, mais mes danses s'appellent anthropoésie, parce que je trouve que danser, c'est connaître son être et c'est le rendre poétique. Voilà, c'est un peu mon chemin. Et j'écris, bien sûr, à propos des textes anthropologiques, mais aussi littéraires. Voilà, en gros.
Alors, deuxième petite question, est-ce que je pourrais te demander, pour toi, une image qui résume un petit peu la rumba? Une image peut-être furtive, une image que tu as en tête là maintenant, comme ça. On va voir un petit peu ce qu'on peut en faire après.
Une image de la rumba, pour moi, c'est une victoire. Une victoire sur le mal absolu, de rendre les hommes marchandises et, avec sa mémoire du corps, de reconstituer une identité. C'est la lutte. Mmh. Voilà. La lutte, mais dans laquelle on trouve une immense jouissance. Voilà. Mmh.
Super intéressant. Moi, c'est Gauthier Lizin, je suis musicien professionnel et je ne suis pas du tout spécialiste de la rumba, mais dans mon trajet qui a commencé à 25 ans plus ou moins en traversant l'académie, le conservatoire de jazz, j'ai travaillé pour le théâtre aussi, j'ai beaucoup accompagné la danse contemporaine, africaine, en parallèle d'année. J'en suis arrivé un jour, évidemment, à vouloir aller plus loin et je suis allé à la découverte des musiques afro-cubaines et je suis allé plus du côté religieux, je dirais, non pas pour la religion, mais pour les rythmes et la musique et le rite qui m'intéressait plus. Et j'ai particulièrement plus travaillé tout ce qui est la Santeria et j'ai un peu approché d'autres cultures parce qu'approchant Cuba, évidemment, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une culture, mais qu'elles sont innombrables. Il y a les Arara, les Abakwa, les Congos, etc. Et donc j'ai un peu approché de tout, mais particulièrement la Santeria. Donc. Et évidemment, ici, pourquoi on est aujourd'hui, pour parler de la rumba, parce que dans la rumba, on retrouve de tout ça aussi. Donc je ferai à un moment donné un lien là-dessus. Voilà, c'est mon trajet en cours.
Et peut-être ton image.
Moi, mon image de la rumba, c'est la rue. C'est des gens dans la rue qui font la fête en apparence. Et c'est vrai que y a le fond dont parle Johanna va se retrouver dedans aussi. Mm-hmm. Mais moi, je prends l'image, juste fixe une photo. Je vois des gens dans la rue qui dansent, qui chantent et qui font la fête. C'est mon image.
Ok.
Bon, moi, mon trajet par rapport à la rumba est assez court dans le temps et par rapport à mon expérience musicale. Moi, je fais de la musique depuis une dizaine d'années. C'est ma profession aussi. Et alors, par rapport à la rumba, bah, ça croise la route de Gauthier, en fait, il y a 2-3 ans. En fait, moi, je me suis intéressé aux musiques afro-cubaines il y a 5-6 ans. Plus ou moins à temps partiel à ce moment-là. Et puis bah là, ça fait 3 ans, 2-3 ans que je suis vraiment. Disons que je m'établis un programme d'études par rapport à cette musique-là. Et puis bah, j'ai rencontré des gens qui m'aident dans ce programme d'études. Donc en l'occurrence, avec Gauthier, on revient d'un voyage de Cuba de 2 mois où moi, c'était mon premier voyage. Donc ça m'a permis de découvrir vraiment ce qu'était. La musique afro-cubaine au sens large et entre autres la rumba avec la rencontre là-bas aussi d'un grand chanteur de rumba qui s'appelle Gregorio Hernandez Rios et voilà qui a fêté son anniversaire là-bas. On a eu la chance de voir cet événement là qui était un peu un événement formel parce que ça s'organisait au sein de l'école d'art, c'est quoi l'Institut d'art?
L'UNEAC. C'est l'Union des artistes.
L'Union des artistes et écrivains, ouais.
Donc voilà, c'était un reflet un peu formel de ce qu'on retrouvait, mais on retrouvait les grandes personnalités de la rumba. Et donc, à un moment, je crois que la musique a aussi pu dépasser cette formalité. et voilà. Donc.
Et peut-être maintenant, l'image que tu en retiens, l'image que tu voudrais dire par rapport à la rumba, ce qui te vient à l'esprit là maintenant, spontanément.
Pour moi, c'est plus aussi le côté de la rue, parce que là-dedans, j'y retrouve plus un trajet que moi, en particulier, j'ai pu découvrir, c'est-à-dire que. J'ai jamais appris autant que la percussion que dans la rue ou dans les quartiers où à un moment cette musique fait partie aussi de la vie et peut-être là où ça se rapproche de la lutte et de la jouissance c'est que bah, ces gens ils font de la musique et que quand ils font cette musique ben bah, ils sont pleinement dedans et à un moment ça leur sort de leur quotidien qui est peut-être parfois un peu ou même je crois souvent difficile et bah, ça c'est le bonheur quoi de pouvoir danser et chanter et faire de la musique. Pour moi, la rumba, c'est plutôt ça, ce caractère-là de la fête.
Olivier, dis-nous un petit peu, toi, ton parcours.
Et moi, en fait, je suis allé 2 fois à Cuba. J'ai réalisé un mémoire sur le système graphique Abakwa. Donc, l'Abakwa, c'est une religion afro-cubaine d'origine africaine. Je me suis rendu sur place et j'étais pendant un mois et demi plongé dans les différentes religions cubaines et ces religions qui influencent beaucoup la rumba justement. Alors, mis à part ça, sinon je suis musicien et donc j'ai un groupe qui s'appelle Tunga avec Pucho qui est ici, qui se présentera tout à l'heure, où on essaye de trouver aussi, de mélanger les différentes racines que sont la musique africaine, la musique cubaine. Alors, la moitié des musiciens, enfin, 2 musiciens sont africains, 1 musicien est cubain, moi je suis français, et on essaye justement de construire quelque chose en mélangeant les différents styles, les différentes origines. Et donc c'est un peu on peut mettre ça en parallèle avec ce qui s'est passé à Cuba, les mélanges de cultures, quoi. Voilà.
Mi nombre es Pucho, soy músico. Estoy efectivamente trabajando en la música aquí en Bruselas, buscando.
Je suis en train de travailler la musique ici à Bruxelles.
Efectivamente, buscando este mélange que ha dicho Olivier.
Donc il cherche ce mélange intéressant qu'a dit Olivier.
El tema de la rumba especialmente me toca.
Le thème de la rumba me touche.
Porque soy de barrio Jesús María.
Ah, il est du barrio.
En la Habana Vieja, soy cubano.
Du quartier Jesús María de la Habana Vieja, qui est vraiment très typique de la rumba, oui.
Y la rumba ha formado para mí desde siempre mi patrimonio.
Ça fait partie de mon patrimoine depuis toujours.
Mi patrimonio musical, sí. Básicamente eso.
C'est surtout cela.
Bienvenue en tout cas. Il est santé même.
On vient nous servir à boire, donc allons-y, profitons
de nous accueillir. Santé à tout le monde.
Ça s'appelle boire en direct. Il n'y a pas d'Havana Club
pour l'instant.
J'ai fait de la pub, je ne peux pas. Bele 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 bele. Oh la ria io. Opa opa opa.
Sácase de frente que quiero pasar. Esta samba está animada, lo que quiero es samba. Esta samba con ritmo de maracaitú. Es un arco nuevo y bello, tan bello como tú. Más que nada, un samba como esta pa' bailar. Vos se la va a querer y vos se la va a gustar.
Y vos se la va a gustar.
Pongo la rumba buena.
Y vos se la va a gustar.
Estas son las cosas buenas.
Y vos se la va a gustar.
Bongo, bongo, bongo.
Y vos se la va a gustar.
Totico en el repicado.
Y vos se la va a gustar.
Entrons dans la danse. Alors, on voulait un peu, si tu pouvais peut-être, Johanna, juste, tu nous parles de ce lien entre évidemment l'Afrique que tu as, le voyage que tu as fait de l'Afrique jusqu'à Cuba. Alors, pour situer un peu un plan un peu plus large, on peut dire que la culture africaine, il y a déjà nombreuses à irriguer un peu plein d'endroits en Amérique. Donc, on se disait justement avec Pedro tout à l'heure. Par exemple, on retrouve dans la rumba, c'est un art assez complet, en sens qu'il y a de la musique, il y a de la danse, c'est quelque chose qui implique pas mal de monde et qui en même temps, il y a une forme de, dans certaines sortes de rumba, il y a une sorte de lutte comme ça dans le yambu, il y a le fait de se montrer, etc. Pedro faisait le parallèle avec la capoeira, par exemple, où il y a aussi ça. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité de la rumba? Parce que est-ce qu'on peut faire le parallèle déjà avec la capoeira, par exemple, au niveau du style d'art, on va dire,
de la démarche. Disons.
Et alors, si tu connais d'autres arts qui sont proches aussi, qui peuvent retrouver des caractéristiques comme ça éventuellement, pour aller tout de suite dans un truc trop précis, quoi, mais c'est de se placer dans...
Il faut se dire que la rumba a été vraiment constituée comme rumba juste après l'esclavage. Et c'était dans les milieux ruraux, c'était dans les milieux, les ouvriers agricoles qui avant étaient esclaves et puis tout à coup sont devenus ouvriers agricoles, mais qui ont connu la même discrimination. Ils ont connu une très grande discrimination, mais ils avaient la liberté de prendre des trains. Donc, vous savez très bien que Cuba, c'était les sucrières. Donc, l'apogée la plus dure de l'esclavage, il a duré depuis le XVIe siècle, mais l'apogée de l'esclavage a été 18e, 19e siècle. Et c'était épouvantable, parce qu'au moment où des esclaves se libéraient ailleurs, eh bien, à Cuba, les esclaves ne faisaient qu'arriver, arriver, arriver. Il y avait des esclaves qui s'affranchissaient, et il y en avait d'autres qui ne cessaient d'arriver. arriver. C'est de là aussi qu'il y a la richesse, justement, rituelle, toutes les richesses des religions qui sont là, tout le savoir, toutes les cosmogonies sont là, parce que chaque fois, il y avait des nouveaux arrivants, et donc ça nourrissait chaque fois le patrimoine, tous les patrimoines qu'il pouvait y avoir. Hein, mais disons que ça, quand on a à Cuba, si vous voulez, quand on a les maîtres d'abord les ont esclavagisés comme ça, c'était des hommes sans femmes. Alors bon, on s'étonne que dans la rumba il y ait une note sexuelle immense. Donc on joue la relation fondamentale humaine qui est la relation sexuelle. Ça se joue. Et donc cette relation est tout à fait jouée et rejouée parce que les premiers hommes, les premiers esclaves n'ont pas eu de femmes. Donc ils étaient privés de femmes et donc dans ce qu'il leur restait comme mémoire musicale ou mémoire dans le corps, etc., c'était des chants rituels qu'ils ont un petit peu sexualisés. Et c'est quand même très, très, très spécifique à Cuba. La femme est quand même vénérée à Cuba. Elle est vénérée et parce que ces hommes ont senti à quel point le monde était impossible sans femme. Donc ils ont rejoué toute cette relation sexuelle dans la danse et c'est devenu absolument génial. Maintenant, je ne sais pas si je me suis écartée du sujet que tu m'as demandé.
Non, c'est tout à fait ça.
Tu m'as demandé, voilà. Alors, les maîtres, au début, ils ont esclavagisé, ça a toujours été sauvage, mais n'importe comment. C'est-à-dire que les esclaves étaient dans des caravelles, dans des bateaux et complètement mélangés, coupés de tout. L'Afrique fonctionne suivant des lignages très compliqués qui ont été complètement anéantis. Ça s'est perdu pour la population noire cubaine, s'est perdu à jamais. Donc c'est un voyage sans retour. Seulement, aussi, on mélangeait les langues. Ça fait qu'il y avait des esclaves, ils ne savaient même pas communiquer au niveau de la langue. Ils étaient coupés de leurs enfants, de leurs aïeux, de tout, absolument de tout. Et ils sont arrivés sur une terre sans espoir, puisque ils étaient à l'état de marchandises, leur corps ne leur appartenait pas, et s'ils avaient une descendance, cette descendance ne leur appartenait pas non plus. Ça appartenait au maître. On distribuait les enfants des esclaves à qui on voulait. Même, il y a des petits gosses de 2 ans qui recevaient un esclave en cadeau, de leur âge en fait. Donc c'était très grave. Mais petit à petit, quand même, on a remarqué une chose, c'est que les esclaves parvenaient à se communiquer et jouaient de la musique. À un moment donné, on leur a interdit de jouer cette musique. Et c'est curieux parce qu'ils ont supporté une traversée innommable, ils ont supporté un traitement innommable, sans aucun espoir de valoir un jour, même pas un état de personne. Et quand on leur a interdit, ils ne sont pas morts, mais quand on les a interdits de danser, ils ont commencé à mourir. Donc c'est à ce moment-là qu'on a dit non, il faut qu'on leur permette de danser, etc. Bien sûr, on leur a permis, mais d'une manière très disciplinée. Ils pouvaient jouer dans certains lieux, pas dans d'autres, etc. Mais à un moment donné, il y a eu un cortège autorisé tous les 6 janvier. Tous les 6 janvier, la fête des rois mages. Et moi, anthropologiquement, ça me touche parce que dans l'histoire de la Bible, il n'y a qu'un seul noir qui est présent, ce sont les rois mages. Et donc, le jour de la fête des rois mages, ils devaient aller saluer, on allait saluer les grands gouverneurs et les affranchis, comme les esclaves, étaient autorisés à sortir avec leurs masques, avec tout ce qu'ils pouvaient sortir. Et on disait, oh, c'est des trucs de sauvages et tout, c'était rien du tout. Mais eux reconstituaient leur identité. Sur la terre cubaine, ils remarquaient tout à l'africaine, donc les Lukumi, Yoruba, les Congos de toute l'ère bantou, les Harara des fonds du Dahomey, tous ces gens-là se reconstituaient. Les Abakwa. Et c'était un langage entre eux, un langage secret pour reconstituer. Donc ils allaient saluer le gouverneur et il y avait les Abakwa qu'on disait des petits diables, des diablitos. C'est là-dessus que j'ai écrit mon article sur le petit diable, comment on m'a dit petit diable, et j'ai fait une recherche à partir de ce moment-là. Donc, ils se sont reconstitués, et à un moment donné, on a dit, bon, c'est des nations, mais on va faire des cabildos, c'est-à-dire on va faire des corporations, comme ça se faisait à l'époque espagnole, des corporations musicales, etc., dans lesquelles... Alors là, on a fait ça, le pouvoir colonial a fait ça, parce que, déjà en Haïti, ça se libérait un peu partout, ils ont dit, aïe, aïe, aïe... Bon, il y a eu des cabildos déjà au XVIe siècle, il y a eu des Noirs affranchis au XVIe siècle, déjà. Hein. On devrait écrire l'histoire de l'esclavage, on en aurait pour Seulement, ils ont fait des cabildos en se disant, comme ça, ils vont se reconstituer comme Congo, comme tout ça, et ils vont se disputer entre eux. Et comme ça, diviser pour régner. Et en fait, ça s'est un peu passé comme ça, mais pas tout à fait. Il y a eu une solidarité. Et en fait, cette solidarité a fait qu'aujourd'hui, disons, Je sais bien que le Conjunto Folclórico Nacional a été en 53 au Nigeria. Ils ont dansé avec notamment Grégory Hernandez qui était dedans. Et il y a une grande amie à moi, Armenteros, comment elle s'appelle, Zenaida, qui a dansé Oya. Elle a dansé donc la déesse Oya. Il s'est mis à pleuvoir, c'est la déesse de la tourmente et tout ça. Et le roi de l'époque, le roi traditionnel, a été sidéré. La langue yoruba était plus pure qu'au Nigeria. Donc, et ce roi est venu à Cuba. Il est venu mettre des choses rituelles à Cuba, tellement il avait été impressionné par la manière intacte dont ces anciens esclaves avaient donc gardé cette culture. Donc voilà, donc ces cabildos ont créé une très grande solidarité entre les gens. Aussi, il y avait des Noirs qui pouvaient s'affranchir, mais ils avaient de toute façon des métiers subalternes. Ils avaient des petits métiers dont les Blancs ne voulaient pas, c'est-à-dire cordonnier, tailleur et musicien. Puisque musicien, ça ne rapportait rien. Donc, tandis que pour les Africains ou les Noirs, c'était vraiment monter d'un niveau et essayer de jouer. N'oubliez pas qu'avant Castro, on dansait séparé. C'est-à-dire les Noirs étaient séparés des mulâtres qui étaient séparés des Blancs. Et il n'était pas question que ça se mélange. Avec Castro, on a tout pu mélanger. On danse où on veut. Donc moi, j'ai fait un travail sur le danzón, sur le son et sur la rumba. Et ce qui m'a épaté, c'est qu'un rumbero ne va jamais renier un danzón, qui est pourtant d'origine européenne. Le menuet, la contredanse européenne, la danse des maîtres. Et ceux du son vont emprunter des choses. Donc ils s'empruntent tous des choses les uns aux autres en gardant leur spécificité. Donc il y a un esprit de solidarité qu'il faut absolument connaître à Cuba, qui est unique au monde dans le sens où tous les genres musicaux sont géniaux, sont devenus intemporels, et en fait ils ont gardé malgré tout leur spécificité en se mélangeant, en empruntant partout. Il y a des danzones basées sur la rumba, il y a des rumbas qui sont basées sur des sons qui, et comme ça, et cette musique s'enrichit et fait des enfants. Donc le danzone a fait le mambo et le cha-cha, et la rumba a fait plein d'autres choses. Donc la rumba qui est venue ici, c'est un son par le Malicel, qui est venu ici en 29. Et on a dit que c'est la rumba, en fait, c'est du son. Voilà.
Là-dessus, sur le transformation vers le son et tout ça, on continuera après peut-être. Voilà. Est-ce Pucho, ça va, tu suis un petit peu
Oui, oui.
Ouais.
Bien sûr. Non, je suis bien d'accord avec l'exposition.
Uh-huh. Ouais.
C'est pas possible de parler de la rumba. Sans parler de la conteste historique,
tout à fait,
ouais. c'est très important. Mm-hmm. Mais aussi, je voudrais dire la façon de regarder la rumba comme un élément pas de réconciliation, mais de mélange, d'acceptation. Parce qu'il faut remarquer aussi que la manière plus traditionnelle de la rumba a été influencée aussi pour le cante rondo de la musique flamenca espagnole. Je veux seulement dire ça. Aussi le regarder comme tous les sortes de musique dans le monde. Un moyen d'acceptation, de réconciliation, de fusion, de mélange.
Tira, la rumba à Cuba aussi a suivi un chemin assez particulier, je crois, et au niveau des musiques, c'est une musique qui est particulièrement cubaine.
Oui, elle est authentiquement cubaine, autant que le danzón et que le son. Oui. Mais elle est constituée de tout ça, et ce qui est quand même incroyable, c'est de voir que la musique des maîtres s'est aussi mélangée avec la musique des esclaves, avec le temps. C'est un merveilleux mélange, c'est ça qui est unique au monde. Oui.
C'est étonnant. Moi, j'ai remarqué en tant que musicien, j'ai une formation donc ici, je dirais classique entre guillemets, parce que je passe par un conservatoire de jazz, mais qu'importe. Enfin, c'est une formation d'européen. Et je veux dire, quand nous, ici en Belgique, je dirais, quand on fait de la musique, quand on compose, on va essayer de partir de son intérieur, je pars de moi, je pars d'une idée créatrice personnelle, enfin, je vais essayer de faire quelque chose d'original, entre guillemets. Et les Cubains, c'est étonnant, mais ils s'amusent en fait à jongler avec des références qu'ils ont. Donc il y en a un qui va composer que ce soit une rumba ou n'importe quoi, mais il va dire, je vais composer un morceau, et dedans, il va prendre un break d'un tel qu'il a fait dans tel morceau un jour, un peu d'influence de tel style de l'époque qu'on connaît de 1930, un morceau de chant ou d'une référence. Ils ne sont que dans un jeu de références qu'ils ont. Et à mon avis, c'est comme ça qu'ils ont.
Il n'y a pas de catégorie, c'est-à-dire que toute musique est bonne, c'est ça.
C'est pas que la musique est bonne, c'est qu'ils prennent dans tout.
Mais oui, parce que tout est.
Voilà,
tout
mais
est
donc bon, quelque part, ils inventent en imbriquant leur connaissance. C'est étonnant. Je dis, moi, quand j'écoute un morceau de musique, de musique cubaine, je dirais, avec un Cubain, il n'arrête pas de me dire, t'entends, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Il va chercher des références dans tout, dans une mélodie, dans un rythme, dans un break, dans une parole. Et moi, ça m'a marqué, parce que moi, en tant que compositeur ici, si je compose, ben justement, je vais essayer de ne pas prendre le break d'un autre, et pas prendre la mélodie d'un autre, et pas prendre une référence connue. J'essaie de faire quelque chose de nouveau. Et eux, ils font du neuf malgré tout, mais c'est avec.
C'est le mythe de la créativité, quoi, hein, ouais. Qui a été un peu trop loin.
Ils sont un petit peu influencés par quelque chose, quelque part aussi.
C'est pas que de l'influence, c'est carrément. Ils le font presque comme un jeu de puzzle en espérant que les musiciens vont le décrypter.
Ah oui.
C'est vraiment un jeu. Ils s'amusent à faire ça. Et tiens, dans ce morceau-là, je vais mettre la clave à l'envers, parce que tout le monde pourrait croire, mais comme ça c'est ma touche à moi. C'est que tout ce morceau-là que les gens connaissent plus ou moins, mais il est joué quelque part à l'envers parce que j'ai bougé la clave. Et c'est vraiment étonnant. Et je crois que c'est une partie comme ça que cette histoire n'a pas été oubliée, qu'ils ont conservé à
c'est
force.
Toujours enrichi.
Mais alors qu'ici, justement, il y a la notion de plagiat. Genre, un musicien qui va composer un morceau, il va des paroles ou même de la musique, et un autre va lui dire « Ah mais non, ça ressemble à ça. » Et « Ah bon, bah, je dois trouver autre chose alors. »
Tout à fait.
Et puis, il faut dire aussi que c'est une musique excessivement généreuse parce qu'elle est écrite pour les danseurs. Ici, on a arrêté de danser, c'est effroyable ça. Parce que cette musique, on disait toujours attention aux danseurs. Quoi. Il fallait qu'on danse parce que la danse donne une énergie aux musiciens. Et on oublie ça. Les musiciens ont besoin des danseurs. Et on veut s'en passer, c'est pas possible ça. Donc voilà.
Si tu veux intervenir.
Moi, oui, c'est la rétroalimentation. Entre les danseurs et les musiciens, c'est le monde de la fête.
Absolument, mais, et même plus que ça, puisque on vit des ancêtres. Quand le corps t'appartient plus, mais ils avaient leur esprit, ils avaient leur ancêtre, ils avaient ça avec eux, et c'est ça leur force, la force du secret aussi, notamment chez les Abakois. Donc, souvent des grands rumberos me disent, mais quand moi je danse, c'est pas moi. C'est pas moi qui danse. Ça veut dire il y a plein d'autres personnalités. On ne sait pas ce que c'est vraiment le corps, parce qu'un danseur, quand il danse, eh bien, ce n'est plus lui. Il y a plein d'esprits, si vous voulez, qui viennent lui rendre visite. Et ceux qui regardent les reconnaissent même. Donc voilà, il y a tout cet aspect qui est très, très important. Mais même dans la musique musicale, comme le danzón et tout ça, on composait pour les danseurs. Donc il y avait un mariage qui se faisait quand même. Ça, c'est très généreux, ouais. Des deux côtés.
Mais ça, peut-être, bon, si je peux me permettre une référence un peu lourde, et peut-être déplacée, mais bon, ouais, par exemple, c'est peut-être un petit peu lié un peu à la création de la modernité en Europe, où on a des penseurs comme Kant ou quoi, ont essayé de séparer différentes sphères. Alors il y avait l'esthétique, la morale, la science. Peut-être que même au niveau de l'art, on a un peu essayé de cloisonner la danse d'un côté, la musique de l'autre. On a peut-être eu plus cette tendance là qui peut expliquer peut-être cette séparation du public.
On a un passé collectif très douloureux avec l'Inquisition, c'est-à-dire on a séparé le corps de l'esprit. Et ça, c'est notre grande douleur à nous. Ce qui fait qu'on a, on a un regard très... Le corps doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans ces cultures-là, le corps que vous avez n'a pas d'importance. C'est son mouvement qui compte. C'est son appartenance qui compte. C'est pas qu'on soit comme ci, comme ça, ou jeune ou vieux. Il y a pas... Il y a des vieux rumberos qui dansent très, très bien. Ici, vous êtes vieux, vous êtes plus rien. Donc, il y a cet aspect-là aussi que ça a été quand même puni. Hein, l'Inquisition punissait ceux qui dansaient. Donc, on a ça en nous, cette séparation qui fait qu'on on a trop de distance. On n'ose pas rentrer dedans, on n'ose pas lâcher le mental pour rentrer dans... dans une autre forme d'intelligence corporelle qui est le fait de danser, de s'oublier dans la danse.
Et Cuba est le pays le plus sensuel que j'ai jamais vu. Hein. Je dis que ce soit des enfants, des vieillards, des jeunes filles, des gros, des minces, des grands, des petits, édentés ou n'importe quoi, les gens, ils mettent leur corps en évidence.
C'est vrai qu'ils sont érotiques, ils ont une érotique, c'est-à-dire ils mettent leur
sensuels, ils se sentent beaux, les gens se sentent beaux. Et qu'ils soient déformés ou mal formés, ce n'est pas important.
Mais il y a aussi... Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup moins de publicité là-bas, vu que c'est un État socialiste.
Il n'y a carrément pas de pub, et, voilà, il n'y a que la propagande.
Et que donc, cette femme idéale qu'on voit tout le temps dans les journaux ici en Europe, à laquelle toutes les filles voudraient ressembler, à Cuba, elle n'existe pas vraiment. Quoi. Ou alors, c'est une autre...
elle est vivante, idéale, elle ne sera jamais en photo. Elle est vivante, elle est dans, dans la rue, c'est la fille de la
rue.
Elle
est moins clairement, genre, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, sinon ça ne va pas.
Oui, ben, il y a un blocus économique qui dure maintenant depuis un demi-siècle, hein, faut pas oublier. Donc rien n'est possible. Donc ça m'a toujours frappé que, par exemple, en Hanson, il faut danser sur un petit carré. Et je me rends compte que moins on a de place, plus on crée, en fait. Et en fait, dans cette révolution, moi, quand je suis arrivée en 89, une aiguille, on trouvait pas de la peinture, on trouvait rien. Mais on créait tout le temps, on créait quand même. On parle toujours de la dictature, mais on ne parle pas du blocus économique qui sévit toujours. Donc on est toujours restreint, on est toujours dans un combat de survie, toujours un combat pour la libération. C'est pour ça que j'ai dit lutte. Quand on demande à quelqu'un, on dit comment tu vas, la lucha. On est toujours dans la lutte, en fait. Voilà. Ça aussi.
Gonel ?
Il y a eu encore, il a un décalage horaire.
Le décalage horaire cubain a frappé. Non, mais sinon, on peut peut-être passer à une petite transition musicale si Pucho et Olivier sont prêts.
Ouais, bien sûr.
Ouais.
Le temps qu'ils s'installent, moi j'avais juste envie de dire un tout petit truc. C'est que tout à l'heure, tu as posé une question à Johanna quand même, et elle a répondu, très très bien répondu, je trouve, très intelligemment. Mais il y a un rapport qu'elle n'a pas fait, elle a demandé qu'est-ce que tu verrais comme autre musique qu'on pourrait mettre en rapport. Elle en a mis jusqu'ici aucune, je pense.
Je dis le dancehall, le son. Oh, mais quelle autre musique en rapport?
Oui, moi je voyais plus dans la musique, enfin excuse-moi. Alors,
moderne, oui.
Moi je voyais même des trucs plus modernes comme le rap, par exemple.
Oui, le rap, le rumba rap est très fort.
Même en enlevant la rumba, mais dans le rap, tu retrouve un côté un peu social comme tu retrouves dans la rumba, où tu as des mises en... Enfin, on va en discuter après plus à l'aise. Dans les chants, etc., tu as des mises en... les gens se lancent des pics aussi dans la rumba. C'est une manière aussi parfois de rendre des comptes dans les problèmes de quartier, de famille, polémiques, des problèmes qu'il y a entre les voisins. Et tu retrouves la même chose dans le rap aussi new-yorkais, quoi, tu vois, dans cette rage, dans ce besoin d'exprimer des choses et d'utiliser la musique pour le faire. Moi, c'est un rapport...
Mais oui, parce que toutes ces musiques naissent dans le peuple, quoi. Oui. Tout ça naît toujours dans une oppression et il faut sortir de l'impasse. Et dans les ghettos, c'est comme ça,
c'est
aussi
ça, toutes
les danses sortent de là, les danses intéressantes sortent de là, et après on les stylise. Mais c'est là que ça naît, hein.
Mais justement, ouais, c'est vrai que je voulais essayer de, malgré toutes les références auxquelles dont tu parlais, justement, les sons, des emprunts, là, etc. Bon, finalement, on se demande, mais comment est-ce qu'on peut comprendre ce que c'est que la rumba, vu que c'est tellement mélangé. Mais c'est peut-être justement cette base un petit peu populaire, qui emprunte, mais en même temps qui n'arrive pas forcément à toucher, peut-être à sortir de Cuba ou à...
Elle est mondiale, la rumba. Elle a fait le monde entier. Hein.
Mais peut-être pas la rumba traditionnelle, la rumba populaire.
Sa source originelle. Mais moi, je suis pour aller à la source, en fait. Tout le temps, garder la source. Et c'est justement la source qui donne la force de se propulser en avant. Si on quitte la source, c'est ce qu'on a fait chez nous. On a toujours voulu être à la page. Et pour finir, on ne sait même plus ses racines. Donc on ne crée plus, on crée de la création, c'est pas ça créer. Créer, c'est des moments qui arrivent comme ça, dans des moments très très forts, où tout est présent, le passé, le présent et ce qui est en train d'arriver. Et ça, bon, dans la rumba, il y a un phénomène comme ça.
Mais oui, mais justement, cette source, elle est cubaine et elle reste à Cuba. C'est un peu ça ma question, parce que on parle de rumba.
Attention, c'est une musique discriminée. C'est une musique vient seulement de sortir. Bon, ils ont eu un prix Grammy, par exemple, les Muñequitos de Matanza, qui est un groupe extraordinaire, a eu le prix Grammy, et c'est seulement depuis que la rumba sort. La rumba a été défendue même sous Castro à un moment donné. Le slogan de Castro, c'était Rumbano trabaja así.
Rumbano trabaja así.
Alors, on ne peut pas. Bon, mais non, il a changé tout à fait d'avis, bien sûr. Parce que c'est une force qui aide à lutter aussi. Si vous avez votre force sexuelle, c'est pas le sexe. Hein. La force sexuelle, c'est la force de création. Donc, elle est là tout le temps. Donc, maintenant, il est
moteur,
il est
sans, en fait.
C'est un moteur fabuleux. Qui manque un petit peu en Europe, en fait. On crée une culture officielle et on oublie que la culture, c'est chanter entre soi, c'est l'entre-soi des gens qui disparaît un peu. Et à Cuba, elle est authentique parce que justement, il n'y a rien. On doit lutter pour vivre, on doit lutter pour trouver un œuf, on doit lutter pour trouver une boîte à sardines, on doit lutter pour tout. Et tout va du bouche à oreille. Donc, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de portable. C'est encore l'oralité qui est là. L'oralité qui est présente dans le peuple, qui est présente dans l'Afrique et qui fait que tous les civilisations à tradition orale sont des civilisations danseuses. À tradition écrite, on danse plus. À moins de l'Inde où on a les deux, mais bon, voilà. En tout cas, en Europe, c'est vrai que...
À Cuba, on a justement les deux, je trouve. Parce qu'en même temps, vu qu'il y a une éducation qui est si bonne, les gens sont...
Ils sont très littéraires.
Donc on a les deux. Quoi.
Très belle littérature cubaine aussi.
Les gens sont très cultivés à Cuba.
Oui, très.
Très cultivés.
Dans le sens plein du terme.
Oui, tout à fait. C'est incroyable. Quoi. Je dis, ils nous dépassent, mais de loin, quoi. Souvent, on considère que tous les pays un peu du tiers-monde, etc., on met ça comme un pays du tiers-monde, mais j'ai jamais vu un peuple aussi cultivé que ça. Quoi.
C'est un pays qui est au bord du gouffre tout le temps, et c'est ça qui est sa force. Ouais.
Oui, tout à fait.
Au bord du gouffre tout le temps.
Ici, on est devenu paresseux, je veux dire, en Belgique, on a le chômage, etc., je veux dire, ça enlève cette énergie créatrice dont parle Johanna. Quoi. Je dis, les gens s'installent dans les systèmes, tout est facile, et on ne se bat plus. Eux, ils se battent tout le temps, donc ils sont tout le temps à cran, et ça leur donne une énergie mais incroyable. Terrible.
Oui, parce qu'on ne sait pas si on va avoir du café, on ne sait pas si demain il y aura à manger, on ne sait pas ce qui va se passer, même politiquement, on ne sait pas.
Voilà. C'est un terreau propice à la création, en fait, cette situation un peu délicate.
C'est une question de survie.
Ouais. Ouais, ouais.
Ils sont constamment sous pression, donc tu ne t'endors jamais, tu as tout le temps l'énergie à sortir, quoi. Tout le temps.
Mais en même temps, il y a un côté super présent de vivre cette chose-là. Ça pas se dire demain il n'y a pas de café donc je vais en garder pour demain.
Ah non,
en même temps, non. Partageons ce qu'on peut partager aujourd'hui avec les gens qui n'ont pas de café aujourd'hui.
C'est une des seules révolutions réellement socialistes. Mm-hmm. Hein, où il y a eu un vrai socialisme. C'est pour ça qu'il faut quand même fort moduler, fort nuancer quand on parle de dictature. Je ne suis pas du tout dans la politique, mais je veux dire, c'est quand même pas une dictature comme ailleurs. Quoi. Je veux dire, c'est tout à fait différent.
C'est une question toujours très
difficile. Il y a l'éducation gratuite, il y a l'hôpital gratuit, il y a un ravitaillement, il y a une prise en charge des gens quand ils sont en danger, il y a tout ça. Quoi. Donc, c'est pas un peuple oppressé tel qu'on on veut le concevoir ici.
Alphabétisation, 100%. Quoi. Je n'ai jamais vu ça nulle part.
Nulle part. Mortalité infantile aussi, absente. Pratiquement, il n'y en a pas.
Les soins gratuits, j'ai jamais vu ça nulle part. Bon, c'est vrai qu'à côté de ça, ils vont avoir des soins gratuits.
C'est pas confortable.
Et on va les envoyer à la pharmacie, tu dois prendre ça. Et d'ailleurs, la pharmacie, il n'y a pas. Mais ça, c'est un autre problème, bah, c'est le blocus. C'est le blocus, mais la fonction sociale réelle, elle est extraordinaire.
Ya sé que estás aquí. Me lo ha dicho el día. Sin prisa y con café. Con tu olor. Y el cantar que entrenó mi gallo fino. Despidiendo a las estrellas que dieron luz a tus huellas en lo más negro del trillo, mi
sacaba brillo a un verso que casi escapa y un gran canto en la solapa me andaba poniendo un guillo, dice, y así te hice canción, te me clavaste de nuevo en el alma, te me clavaste de nuevo en el alma, como una puntillita fina me fuiste rajando la piel en el alma, te me clavaste de nuevo en el alma, te me clavaste de nuevo en el alma, dice, y así te hice canción.
Une rediffusion, la Djiboutique, pardi.
Au Pôle Plan.
Djiboutique. Au Pôle Plan.